la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un, nous aussi on le sait, c'est la lorgnette par le bout de la lorgnette, l'émission sur la rentrée littéraire aujourd'hui, c'est pas la rentrée, on est revenu il y a 2 semaines, c'était sur la rentrée des classes, donc aujourd'hui on va s'attaquer à des gros morceaux avec nos chroniqueurs qui sont là. Pourquoi tu ris, Valérie? Salut Valérie.
Salut Ludo.
Je n'ai même pas fait exprès, dis-toi, ce n'était pas du tout préparé. Tiens, une 37e émission, 37, c'est le département d'où, Pauline?
Indre-et-Loire ?
Exactement, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Héloïse, salut.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va bien, je suis en forme aujourd'hui.
Ah, mais surtout que tu as un super week-end qui t'attend.
En perspective, oui.
Tu sais pas, Pauline, parce que tu n'étais pas là tout à l'heure, elle va visiter pendant ce week-end une station d'épuration.
Oh, merveilleux.
Ouais, c'est très bien.
Et ben, figurez-vous, personne ne sait vraiment comment ça marche. Ça peut être intéressant.
Super important.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus.
Construisez-en une avec des roseaux, c'est beau et écolo.
Oui, c'est vrai, ça marche. Mais ils en parlaient à un moment, sûrement, de ce système-là, il me semble. Allez, qui commence? Il n'y a pas Nico, on salue Nico qui travaille encore.
Oui, on est très triste.
Oui, mais bon, il reviendra peut-être un jour. Hein, on va espérer.
On va tous prier pour ça.
Non, mais il est pris par ses obligations, mais il pense à nous, il nous écoute. Tiens, on va allumer le micro numéro 4 parce qu'il y a Audrey qui ne voulait pas parler. Salut Audrey.
Salut.
Alors Audrey, on rappelle, qui est ta stagiaire, Héloïse.
Oui, ça fait un an et quelques mois qu'elle est en stage à la librairie, régulièrement.
Très bien, on ne va pas plus l'embêter. Sachant que je n'ai qu'un livre à présenter, je ne vais pas prendre la parole en premier. Mm-hmm. Qui c'est qui gagne? 2 livres, 3 livres, 3 livres. 3 livres, Valérie, tu as gagné.
Youhou !
Le droit de commencer.
Alors, je vais commencer, pas par mon coup de cœur. Je vais le garder pour la fin, si vous me promettez que j'aurai du temps à la fin pour en parler.
Temps.
Non, je vais faire court parce que je vais commencer par le livre dont tout le monde parle. Toutes les librairies, les bibliothèques, les radios, tout le monde parle du futur... lauréat du Goncourt, si je ne m'abuse.
Eh bien, je me suis plantée parce que figure-toi qu'elle n'est pas sur la liste. Elle est sur la liste du Femina, sur le Renaudot.
Cette émission commence bien.
Non, mais j'allais dire, c'est très bien.
J'avais parié sur elle, mais bon.
Voilà. Et moi, j'étais un peu... Voilà, donc je vous sors Le Grand Jeu. Ça y est, c'est maintenant. Le Grand Jeu, c'est un livre de Céline Minard. Donc Céline Minard, c'est une petite jeune qui a quand même 8 romans à son actif. L'histoire du Grand Jeu, c'est une dame... Alors, on ne sait pas pourquoi, elle décide de s'isoler, de se couper du monde. Ça ressemble plus à une expérience scientifique que vraiment une vraie coupure du monde. Et elle s'installe dans une espèce de... Comment dire? De cylindre en fer. En fer, une matière assez épurée, accrochée à flanc de montagne. Et elle se coupe totalement de la civilisation. Pour ça, il aura fallu des hélicoptères, des hommes pour amener toutes ces affaires là-haut. Et après, elle va vivre donc toute seule, se nourrir du jardin qu'elle va faire. Elle a pris des graines, elle a pris de quoi faire son jardin. Elle sait qu'elle va pouvoir pêcher. Elle a pris du matériel de randonnée, d'escalade. Et c'est son voyage initiatique, donc, de voir comment elle va réagir en se coupant des êtres humains. Le sujet, donc, est super sympa. Moi, j'ai trouvé ça un peu lent, en fait. Et alors, il y a beaucoup de détails. Je pense que les gens qui aiment l'escalade vont adorer parce qu'il y a pas mal de termes techniques. Évidemment, à un moment donné, elle va rencontrer un autre être humain qui aussi vit en ermite. Alors, est-ce que c'est son esprit qui lui joue des tours? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est pour dire qu'en fait, on ne peut pas vivre sans l'autre? Bon, c'est bien écrit. Enfin, moi, je trouvais ça bien écrit, mais ça m'a pas... quand Héloïse, tu m'as dit... je crois que tu as le futur Goncourt dans les mains. Voilà.
En fait, j'avais rencontré l'auteur à la présentation de la rentrée littéraire Actes Sud. Mmh. Et la manière dont elle en parlait, elle est captivante, cette femme, quand elle parle. Et je me suis dit, vraiment, là... On tient quelque chose de bien, quoi.
C'est bien, hein, bon, c'est pas. Pas. Il y a eu des livres que j'ai commencé que j'ai pas fini parce que vraiment c'était pas intéressant. Là, c'est intéressant, mais c'est. En plus, il est court.
Il est court. Il fait quoi? Il fait à peine 200 pages et c'est écrit gros. Donc ouais, c'est.
Après, je suis mitigée. Est-ce qu'il y a des pointes d'humour? Parce que je sais effectivement qu'elle a pris pas mal de rhum avec elle aussi dans sa. De caisse d'alcool.
Ah, du rhum, oui.
Je voilà.
Des rhums, des gens. Il y a quelques moments qui sont assez délirants, et notamment quand elle rencontre l'autre être humain. Là, ça part. À la limite, même, ça coupe complètement le rythme du livre qui, au départ, elle raconte comment elle va explorer un versant, l'autre de la montagne, comment elle s'acclimate. Et vraiment, elle s'acclimate super bien à son nouvel environnement. Et c'est ça part en vrille dès qu'elle croit rencontrer l'autre. Et par contre, ce qui est joli dans le texte, c'est qu'au milieu de la narration, elle met les copies de ses carnets de bord en fait. Et là, c'est là où c'est assez rigolo des fois.
Et après, oui, l'ermite qu'elle rencontre, l'autre ermite, il vit pas du tout de la même manière qu'elle aussi. C'est-à-dire qu'elle vit plutôt dans le luxe, même si elle est seule.
C'est ça.
Et lui, c'est autre chose.
Oui, c'est d'ailleurs la maison, entre guillemets, la cabane où c'est qu'elle l'a, entre guillemets, senti pour la première fois. C'était un ruine. Enfin, ça laissait pas présager qu'il puisse y avoir quelqu'un qui y vive. Après, ça part un peu plus loin sur des médecins. Après, il y a le côté métamorphose ou autre qui entre en compte dans l'imaginaire, mais voilà, c'est pas le coup de cœur que j'espérais en fait.
D'accord.
Voilà, je pense que j'avais bercée d'illusions sur ce livre qui est bien. Voilà, c'est pas une mauvaise écriture, c'est pas l'histoire le postulat de base est sympa. Voilà, après ça, c'est pas un livre que je relirai forcément.
Très bien.
Pour mon premier livre de la rentrée.
C'était le grand jeu Céline Minard aux éditions Rivage.
Voilà.
D'accord, très bien, merci.
Ouais, c'est pas évident de faire une critique neutre.
Non, mais après, on est là pour donner notre sensibilité sur le livre qu'on a lu. Ouais. On ne détient pas la vérité non plus. Ça peut plaire à d'autres personnes. Ouais.
Du coup, j'ai été lire quand même des critiques sur Internet. Et je suis même sur des sites un peu sérieux quand même. Mais... Je me rends compte que il y a pas mal de où on adore, où c'est il y a pas de critique vraiment négative, mais il y a quand même pas mal de gens qui disent oui c'est un bon livre, mais rien de transcendant, ou alors les gens ont vraiment vraiment énormément aimé sur sa façon d'écrire. Après c'est quand même une performance d'arriver à trouver un sujet à écrire. Je dénigre pas.
Et Céline Minard, elle avait eu le prix du livre Inter avec un livre qui avait beaucoup marché. Il y a 2 ans, qui s'appelle « Faillir être flingué », qui est un western,
dans,
en fait.
Dans l'Arkansas, non, c'était...
Alors, je ne sais pas. Aux États-Unis, en tout cas, mais... Ouais.
Voilà, elle est rouennaise. Elle est née une certaine année érotique à Rouen. Elle était pensionnaire de la Villa Médicis en 2007 et 2008 et de la Villa Kuyoyama en 2011. Excusez mon japonais.
C'est vrai qu'on trouve peu de choses sur elle, savoir d'où elle puise son inspiration.
Elle est assez discrète, quand même.
Oui, parce que je crois qu'elle avait étudié la philosophie, et point. C'est tout ce que j'ai trouvé sur elle.
Oui, c'est ça.
Ouais, t'as trouvé pareil ?
A-t-on besoin d'en savoir plus ?
Oui, non.
Non.
C'est pas nécessaire.
Héloïse, tu as également 3 livres, donc tu as gagné le droit de continuer.
Oui, 3, dont 2 dont je tiens absolument à parler. Après, le 3e, c'est pas très grave.
Alors, commençons par un qui
Commencer par Le Rouge Vif de la Rhubarbe. Et donc c'est le titre et l'auteur c'est Odur Ava Olafsdottir. Donc elle est islandaise.
Ouais. Est-ce qu'elle a déjà été à Kirkuk? Bah elle est grosse turque.
Oh là là, Christian. Tu le tiens encore.
Non, c'est pas
Christian.
Non, bah là, grosse turque.
Oh non, arrête.
Il faudra réécouter l'émission. Ouais. Qui?
Est-ce qu'elle y a déjà été
T'as vu le piège qu'elle a vu? Oui, donc Olaf Krushin Flutter.
Odura Ava Olaf Dottir.
Odura Ava Olaf Dottir, je ne sais pas. En même temps, l'Islande, c'est assez petit. Donc oui. Je pense
qu'elle
a pas mal parcouru ce pays qu'elle aime. C'est donc aux belles éditions Zulma. Donc écrivaine islandaise à l'accent chantant, vous pouvez aller sur le site de Zulma, vous avez un extrait de ce livre qu'elle lit avec sa voix toute douce, et c'est, même si on comprend rien, c'est très beau, c'est presque ça berce. Et donc elle a déjà publié en France pas mal de romans à succès dans cette même maison d'édition. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Rosa Candida par exemple. Oui. Voilà. L'embellie, l'exception, etc. Et donc là, le roman que je vais vous présenter, en fait, c'est le tout premier qu'elle a écrit, mais qui n'avait jamais été traduit en France et qui vient juste de sortir pour la rentrée littéraire. Donc, c'est le récit, en fait, de la vie pleine de surprises d'une jeune femme qui s'appelle Augustina. Donc, c'est une ado, elle chante dans un groupe de rock, elle fait de l'aviron. Elle a une chambre qu'on imagine qui se situe dans une tour, en fait, sur les hauteurs de son petit village islandais. Elle a une vue sur le fjord et sur la montagne. Elle va souvent sur une plage de sable noir. Elle parle aux oiseaux et elle parle beaucoup avec Dieu aussi. Elle se pose beaucoup de questions. Sa mère vit très loin d'elle. C'est une ornithologue célèbre et du coup, on ne voit jamais sa mère vraiment. Elle lui envoie des lettres tout le long du livre, mais c'est une personne qui est très loin d'elle depuis très longtemps. Ensuite, il n'y a pas de papa non plus. Et donc, c'est une amie de la famille qui s'appelle Nina, qu'on imagine comme une espèce de grand-mère. Elle cuisine beaucoup, elle fait la confiture de rhubarbe la plus acide du village. Mais par contre, les boudins au sang de mouton les plus appréciés. Voilà, et donc c'est un sacré personnage, cette Nina. Et donc, elle s'occupe d'Augustina comme de sa fille. Donc je pourrais vous énoncer pas mal de détails de leur vie courante, comme je viens de le faire, le boudin, la cuisine, les baignades, etc. Parce que c'est vraiment une succession assez simple de ces faits de vie-là. C'est vraiment la poésie de la vie qui est exprimée dans ce livre. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que Augustina est une jeune femme handicapée. Elle n'a pas l'usage de ses jambes. Depuis sa naissance, elle est née en fait un peu à la va-vite à l'arrière d'une voiture et ça s'est mal passé. On n'en saura pas plus, mais en tout cas, voilà, on sait qu'elle n'a pas l'usage de ses jambes. Elle se déplace avec des béquilles. Donc voilà, mais en fait, c'est un quotidien qui n'entrave... C'est un handicap qui n'entrave pas beaucoup son quotidien parce qu'elle vit une vie normale pour son âge. Elle a des amis, elle a un premier amour, elle va se baigner. Comme je vous dis, voilà, elle fait tout plein de choses. Elle chante dans un groupe de rock. Et elle a un objectif dans sa vie, c'est monter toute seule la montagne à côté de son village, faire l'ascension l'ascension de la montagne derrière chez elle.
Qui s'appelle comment, la montagne?
Je crois que c'est pas précisé dans le livre. Ah.
Chanceuse.
Voilà, donc après, la seule chose qui est un peu triste dans cette ville-là et qui apporte une touche de mélancolie, c'est effectivement l'absence de sa mère et les lettres qu'elle lui envoie qui sont un peu désinvoltes, c'est-à-dire qu'elle lui parle de ses amours, elle lui annonce comme ça qu'elle va avoir un enfant par lettre, tu vois. Donc ça, c'est un peu triste, mais ça accentue, la beauté du personnage d'Augustina. C'est vrai que, voilà, elle peut pas être qu'heureuse, cette petite, donc voilà. Et donc c'est vraiment enchanteur, il y a plein de paysages, de situations toutes simples mais magnifiques. Et c'est l'écriture qui fait briller ce quotidien islandais et nous fait voyager dans l'adolescence, le pays et le handicap. C'est assez merveilleux et ça fait beaucoup de bien. Et si vous voulez bien, je vais vous lire un petit passage où elle parle en fait de son projet d'ascension de la montagne. Alors. Une fois atteinte l'altitude suffisante, tout se déploierait à ses pieds. En gravissant quelques mètres de plus, les choses rétréciraient, deviendraient minuscules, et encore plus haut, tout finirait par se confondre. Chaque élément s'enfoncerait dans l'autre pour s'y inclure. Le monde formerait un ensemble harmonieux, prés verdoyants, champs de lave violette, lents des cratères de ci de là, et les lacs des plateaux pleins de truites grasses, et la montagne. Tout ne ferait plus qu'un, mer et terre seraient confondues, mer et ciel également, et rien n'aurait plus d'importance, car là-haut régnerait la stabilité de la certitude.
Très beau. Ça a plu à Pauline.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Donc voilà, j'invite tout le monde à lire ce petit bouquin. Très, très, très sympa.
C'est positif.
C'est très positif.
C'est vraiment positif, c'est apaisant.
Oui.
C'est ce qui t'a plu
Ça m'a vraiment touchée, oui. Que ce soit tous les personnages sont touchants. Il y a, comme je dis, les paysages, l'ambiance. Voilà. C'est très sympa.
Allez, tu nous rappelles l'auteur, le titre et la maison d'édition, s'il te plaît.
Donc l'auteur Odur Ava Olafsdottir. Le titre, c'est Le Rouge Vif de la Rhubarbe. Et c'est chez Zulma Édition. Voilà.
Merci Héloïse.
On entend beaucoup parler d'Islande, c'est ainsi dans la littérature.
Oui, c'est vrai, mais il y a pas mal d'auteurs. Enfin, c'est le pays en fait où je crois une personne sur deux écrit un livre dans sa vie. Ils ne sont pas publiés, mais c'est vraiment une tradition là-bas en fait d'écrire même pour soi. Voilà.
Et comment on peut l'expliquer ? Ça a toujours existé, la littérature islandaise, ces écrivains-là, ou il y a un renouveau depuis quelques années ?
Oui, il y a une vraie tradition. Il y avait des récits, le nom m'échappe, mais c'est des grands récits familiaux, de vikings, vraiment des récits presque généalogiques qui existent. C'est les sagas islandaises, tout simplement. Et donc ça, il y avait une tradition d'oralité là-bas, et après ça a été écrit, et il y a des recueils de 2000 pages de sagas islandaises. Donc oui, c'est quelque chose qui... ils sont imprégnés en fait de littérature là-bas, dans leur culture, c'est quelque chose d'important.
Ok, super. Merci Héloïse. Alors Pauline, tu nous parles de quoi ? De romans policiers, de romans de science-fiction ?
Je suis dans le thème.
Je suis dans le thème
aujourd'hui. Ouais.
Là, c'est bien la rentrée des classes. Hein.
Ouais.
C'est ça. Non, c'est bien la rentrée littéraire avec Elisa Chua du Sapin, qui a écrit Un hiver à Sokcho. Alors c'est une jeune fille, hein, elle a 24 ans, c'est son premier roman. Et donc elle nous parle de Sokcho, qui est une ville de Corée du Sud, qui est tout près de la frontière avec le Nord, qui est en bord de mer. Et alors là, je vais citer parce que j'aime beaucoup la présentation. Elle suintait l'hiver et le poisson, et Sokcho attendait. Sokcho ne faisait qu'attendre les touristes, les bateaux, les hommes et le retour du printemps. Du coup, voilà, c'est cette ville qui vit vraiment un hiver, on sent froid, humide, long, où il se passe rien, où tout le monde est un peu seul. Et très franchement, au début, je me croyais presque finalement un peu en Islande, où voilà, je me voyais pas du tout...
Le roman suicide de Pauline. On va faire un jingle, la minute suicide de Pauline. Tu sentais le poisson et...
Tu suintais le
poisson. C'est
oui,
une belle insulte.
Oui, ça suintait l'hiver. Ouais.
Je vais la garder, cette insulte. Oh,
tu suintes l'hiver un peu, toi, non ?
Ouais.
Mais je trouve que ça... Voilà, tout de suite, on a un ressenti sur ce qu'est la ville.
C'est
rien qu'avec
écrit,
une toute petite description comme ça, c'est incroyable. Mmh. Et du coup, donc, on rencontre la narratrice. Alors franchement, j'ai cherché, je crois qu'on ne connaît pas son prénom. J'ai feuilleté, mais il me semble qu'il n'est jamais dit. Donc c'est une franco-coréenne comme l'auteur, mais a priori rien à voir avec sa vie réelle. Donc il vit dans ce petit village, et bon bah déjà rien que le fait qu'elle soit franco-coréenne, bah alors c'est tout ce qui fait vivre la ville, hein, le gros commérage, voilà, on ne parle que de ça. Donc voilà, son père était français, sa mère il a séduit sa mère, il est parti.
Sa mère était coréenne.
Sa mère était coréenne, tout à fait.
Ah, comment tu le sais ?
Je déduis.
Ah, oui.
C'est mon système de déduction.
Donc sa mère est évidemment poissonnière comme beaucoup de gens dans le village. Par contre, elle a une particularité, elle peut cuisiner le fougou. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est
le poisson toxique.
Voilà, le poisson toxique. C'est la seule dans le village qui est capable de faire ça.
C'est un poisson. Selon comment tu vas le cuisiner, en fait, tu peux en mourir.
Ah oui.
Voilà. Ouais.
Et au Japon, ils le cuisinent cru. Ils ont l'habitude de le cuisiner cru, et ça apporte une certaine ivresse quand ça engourdit les lèvres, en fait, cette espèce de poison.
Tu m'étonnes.
C'est dangereux, mais il y a des gens qui adorent ça. Quoi.
Mais il y a que certaines personnes qui sont autorisées à le cuisiner.
Moi, je pense que c'est un fait. Et voilà, elle a vraiment une licence pour le cuisiner, sa maman, quoi.
Sinon, tu peux tuer des gens.
Et d'ailleurs, au Japon, quand le chef cuisinier vient voir les clients pour leur demander s'ils ont aimé ce poisson, ils leur répondent "Hewan". Ils peuvent plus bouger les lèvres.
On fera une émission sur le Japon, on parlera du fou.
Ouais, c'est sympa, ouais.
Et voilà, du coup, cette jeune fille, dans sa vie, elle rend visite à sa mère. Elle a son petit copain, Junho, qui pense qu'à son physique. Alors, il veut partir à la capitale pour devenir mannequin. Et puis, voilà, il pense qu'à ça. Bref, il se passe pas grand-chose. Et depuis un mois, elle travaille dans une pension au bord de la plage. Elle y fait le ménage, les chambres, mais bon. Il n'y a pas grand monde, tout est un peu figé. Il y a cette jeune fille. Alors on est donc en Corée du Sud. Tout le monde, tous les jeunes, c'est un peu devenir mannequin, me faire refaire tout. Donc il y a cette jeune fille qui est en convalescence après une opération esthétique. Mais c'est pareil, c'est un personnage qu'on voit juste passer comme ça. Donc voilà, elle vit dans un peu un huis clos où tout est complètement figé. C'est une ambiance très fermée, très froide, très figée, je le redis. Hein. Et là arrive un visiteur. Alors là, c'est très drôle parce que c'est Yann Kerrang qui arrive, un bon Normand.
voilà pourquoi. Elle a aimé le livre.
Et donc, il se présente à la réception de la pension. Alors, il est, comme elle dit, perdu dans son manteau de laine. On l'imagine très bien de sa Normandie natale qui arrive dans ce truc très froid et humide, dans son gros manteau. Elle se demande complètement qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Et donc, il lui dit qu'il a simplement besoin de calme. Donc, bah, il s'est pas loupé. Hein. Il va se retrouver donc logé dans l'annexe.
Nickel. T'as choisi la bonne ville, allez bien.
À côté de la chambre de notre narratrice. Alors évidemment, ça devient sa curiosité. Elle l'observe, elle l'épie.
On y arrive.
Mais oui, voilà, elle est vraiment très intriguée.
Le mannequin, il fait pas le poids à côté d'un Breton, d'un Normand.
Oui.
Je me suis reprise.
Mais voilà, donc déjà il est français, donc ça lui éveille quelque chose. Et puis il est aussi auteur de bande dessinée. Donc elle fait des recherches, elle va découvrir des extraits de ce qu'il dessine. Et notamment, elle va découvrir un personnage qui est un héros qui lui ressemble et qui est un personnage très solitaire. Les femmes sont toujours dessinées à peu près. On les devine. Enfin voilà, il est très mystérieux, très intrigant, cet auteur de bande dessinée. Et évidemment, voilà, va y avoir des relations qui vont se nouer entre eux.
Mais en fait, c'est son frère.
Ah non,
c'est son frère de sa mère.
Non, bah, le frère du type, il s'appelle Erwan.
Ah oui, évidemment.
Mais c'est une histoire d'amour du coup.
Alors, c'est très particulier. Alors, vous allez dire, quand on dit c'est très particulier, c'est que c'est nul. Non, ça, c'est pas le cas. C'est une histoire de relation. C'est une histoire... C'est extrêmement doux. C'est dans une grande finesse. Il y a quelque chose qui va se lier entre eux. Alors, moi, j'ai pas été particulièrement touchée par leur histoire, de leur lien ou... J'ai été très touchée, par contre, par l'écriture, par la douceur, la délicatesse. On dirait vraiment qu'on est dans cet hiver et puis qu'il y a quelqu'un qui nous chuchote un petit conte. Voilà, quand il dessine, on voit vraiment la plume sur le papier d'une douceur extrême.
T'es pas endormie, ça va,
non,
en le lisant?
Et non, je me suis pas endormie parce qu'on lit plus de la poésie qu'un roman, finalement. Et il y a aussi, voilà, ça éveille vachement les sens, voilà, quand elle cuisine, on sent vraiment, on entend la friture qui crépite, on sent l'odeur du poisson qui cuit, les épices, c'est vraiment, voilà, elle a une écriture incroyable, et ça, vraiment pour ça, bien, même si j'ai pas été, moi, là je parle personnellement, très touchée par l'histoire, par contre j'ai été émerveillée par, voilà, par le style, c'est vraiment... extrêmement raffinée, c'est quand même un premier roman.
Et à 24 ans,
À 24 ans, elle a un talent, cette fille, une écriture fabuleuse. Et en plus, l'histoire, je pense, pourrait toucher certaines personnes, moi non, mais voilà. C'est vraiment à lire au moins pour l'écriture, c'est très court, ça fait moins de 150 pages, ça se lit extrêmement vite, et c'est, voilà, c'est assez incroyable dans l'écrit.
Et l'auteure est franco-coréenne également?
Oui, elle est franco-coréenne, donc elle a vécu à Paris, elle a vécu à Séoul. Bon, elle a eu un parcours assez incroyable et voilà, elle arrive là où elle doit arriver. Hein. À mon avis, ça va faire un grand auteur. Si elle continue à écrire, je pense qu'on va en entendre parler.
Très bien.
Zoé, maison d'édition Zoé.
Ouais, Hiver à Sokcho, par Elisa Chua du Sapin.
Ok, merci. Merci Pauline, allez, je vais trancher complètement avec les livres que vous nous avez présentés toutes les trois, car je vais présenter une comédie sociale. C'est un livre d'Anne Persin, Sous la vague, les éditions chères à Héloïse, les éditions du Rouergue. Anne Persin qui aura 46 ans dans quelques jours, qui vit en Saône-et-Loire, où elle partage sa vie entre l'enseignement et l'écriture. Oui, moi je présente la vie des écrivains dans cette émission. Alors, elle écrit à la fois pour la jeunesse et les adultes. Je ne sais pas si tu as lu des romans de jeunesse d'Anne Persin, Héloïse.
Si, c'est souvent très drôle. Et en même temps, il y a vraiment une part de réflexion, de social qui est assez forte dans ses romans jeunesse. Ouais.
Voilà, elle a été l'auteur à succès d'une trilogie pour adolescents. Comment bien rater ses vacances, entre parenthèses, pour le bien. Elle est l'auteur également de plusieurs romans, dont le premier été a été adapté à la télévision sur France 3. Formidable téléfilm, le premier été, que je n'ai pas vu. Et elle vient de sortir donc ce nouveau roman, Sous la vague. Excellent roman, Mademoiselle Héloïse Finiels. Sous la vague, alors c'est une comédie sociale. Une comédie sociale, chers auditeurs, auditrices et chère Valérie, est une mise en scène de la tragicomédie de l'existence. Là, donc, bon, là, je lis ce que j'ai récupéré comme information, hein, parce que je suis pas un professionnel de la comédie sociale. La comédie sociale met en évidence la distance entre l'imaginaire individuel des personnages et la représentation sociale, souvent critique, dessinée par le metteur en scène au sein d'un même film, ou en l'occurrence du livre. Tu me suis, Pauline ?
J'essaye.
Voilà, parfait. Alors, en gros, dans une comédie sociale, les fins sont parfois amères. Alors, je vous en dirai rien sur ce livre. On peut retrouver une certaine légèreté dans le traitement des péripéties qui, dans ce livre, sont foules. Et on peut retrouver un grand nombre de séquences comiques et la volonté d'épargner au moins un personnage principal, ce qui est le cas, le personnage principal de ce livre, que rien ne poussait à aimer au départ et pour lequel moi je me suis lié d'affection, s'appelle Bertrand Berger Lafitte. Il a 56 ans, il est négociant en cognac, directeur général de l'entreprise familiale. Alors au final, c'est un personnage un peu mou, lymphatique, résigné, qui fuit les problèmes plutôt que de les affronter. Et les problèmes, ils vont se succéder pour Bertrand, car l'histoire se déroule au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Le Japon, qui est l'un des principaux acheteurs du cognac haut de gamme que vend l'entreprise, et qui voit donc ses ventes et ses cours en chute libre. Dans le même temps, la femme de Bertrand fréquente un investisseur majeur de l'entreprise. Les deux tentent de le déchoir de son rang de président. Sa fille, très drôle, tombe enceinte de l'un de ses ouvriers syndicalistes. La grève gagne également les rangs de l'usine de production. Enfin, voilà, tout est... Alors, ça paraît très drôle quand je le raconte comme ça, mais c'est extrêmement, extrêmement bien écrit. C'est fin. C'est-à-dire, on lit l'histoire. C'est pas de l'humour gros potage. C'est, ah, cet événement arrive. Elle le décrit normalement, comme si c'était... Sauf que... C'est drôle, l'événement est drôle en lui-même. C'est là où elle a un style d'écriture qui est très très bon. Alors, Bertrand, face à tout ça, avec un calme à toute épreuve, lui s'intéresse à un chevrier que son chauffeur Eddie, un personnage également haut en couleur, a renversé une nuit, un fond blessé, une corneille coincée dans une cheminée, une portée de chaton, à ses estampes japonaises dont il est amateur. Plutôt finalement que défendre ses propres intérêts. En fin de compte, on se dit qu'il subit, mais surtout en fait, il relativise. Voilà, il est face à ça, il reste à part, il est calme, il relativise, il voit d'autres problèmes plus importants au moment donné que ceux qui lui font face. Donc c'est vraiment une succession d'importants qui traverse sa vie, où on sent un sentiment de détachement déconcertant qui est omniprésent, mais d'un côté qui est calme, qui est apaisant, qui est assez drôle. Alors je vais vous lire juste une phrase pour... Alors Olivia, c'est sa fille. Olivia va avoir un bébé, vous saviez ça? Les actionnaires se débinent, la maison se casse la figure, et j'ai une corneille dans le tuyau. Que vais-je pouvoir faire? Voilà, ça c'est Bertrand face à ces événements. Alors, c'est bien moins léger que ça y paraît, parce qu'au final, c'est quand même une réflexion sur notre monde contemporain, sur la nécessité de relativiser, entre parenthèses, les petits événements qui viennent polluer notre quotidien, sur la dureté de l'économie de marché, qui n'a que faire que des traditions familiales auxquelles lui est extrêmement attaché. Et au final, voilà, les catastrophes s'enchaînent, et Bertrand, il voit que des futilités. Pour lui, l'essentiel est ailleurs, sauf que finalement, il ne sait pas vraiment où est l'essentiel. Donc voilà, c'est un personnage où on pourrait se dire « il ne fait pas face », etc. Et non, il devient attachant pour ça, justement, parce qu'on se dit bah, « finalement, bah, il a raison, quoi. Voilà, il vit sa vie, excusez-moi de l'expression, on l'a emmerdé toute sa vie, mais voilà, là, il voit autre chose qui lui fait plaisir, il se balade dans ses vignes de cognac alors qu'il n'a rien à y faire, et il se dit « de toute façon, je ne vais pas faire remonter le cours de la bourse, là, à l'heure actuelle, il faut que j'attende que quelque chose se passe, donc je vais me balader ». Enfin, c'est extrêmement drôle. Alors, comédie sociale, je l'ai dit au départ de la chronique, une importance des personnages, et justement, tous les personnages, finalement, leur importance. Donc il y a son ex-épouse, parce que c'est pas son épouse, ils s'étaient séparés, mais il se voit toujours autant, qui est empathique, manipulatrice. Sa fille, autant dans ce bobo, il rentre chez lui un jour dans son manoir, tout est noir. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe à sa femme de maison? Il dit, non, Olivia fait une fête avec ses amis, donc c'était soirée black. Alors elle a mis des teintures sur tous les murs, dans la cuisine, tous les aliments sont peints en noir. Et donc face à ça, il dit, bon, ben enlevez les teintures. Alors ça reste drôle, et elle revient, dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, une soirée black, voyons, tu connais pas les soirées black? Et bon, voilà, donc c'est décalé, c'est relou. Son chauffeur est excellent aussi, un gros chauffeur tatoué, qui mange des œufs sur le marbre, en les écaillant sur le marbre, qui qui est très drôle, qui lui fait fumer du cannabis à un moment. Bon, enfin, ça, c'est dans l'histoire. Alors, tout le monde coexiste, et y compris les animaux. Donc, les animaux tiennent une place importante. Genre, la corneille qui est coincée dans le tuyau. L'histoire commence par l'animal qui est écrasé au bord de la route et qui disparaît. Et au final, il se pose des questions. Où est passé cet animal? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Sur la portée de chaton, etc. Qui sont, c'est des animaux qui deviennent des personnages, finalement, qui vivent, qu'elle croque, que l'auteur vraiment s'est croqué, quoi.
Mais tu penses qu'il y a un message un peu pro-animaux, enfin pro-écolo derrière ça, ou pas du tout?
Non,
c'est juste
non,
Bertrand qui s'intéresse aux animaux et qui...
Oui, oui, je pense que l'auteur aime bien les animaux, mais là, c'est pour faire vivre aussi des personnages, et c'est pour relativiser aussi ces événements tragiques où lui, voilà, a trouvé... en plus des estampes japonaises dont il est fan, là, ben, il s'intéresse aux animaux. Donc peut-être bien, mais je pense pas que c'est le message
premier.
C'est
pas
premier.
Militant ou quoi que ce soit.
Non, c'est pas du tout militant. Non, sinon il aurait pas coincé une corneille dans un tuyau de cheminée. Alors le son homme de main, son conducteur, dit non, mais de toute façon elle finira bien par tomber. Il y a sa femme de ménage qui dit non, mais on peut pas la laisser là. En plus, elle fait du bruit. Vous l'entendez, on l'entend croisser. Je pense que oui, une corneille, non. Enfin, qui pousse des cris, dans. Alors, enfin, il cherche des solutions pour la sortir de là. C'est extrêmement drôle. Donc c'est un film drôle, ironique et plus profond qu'il n'y paraît. Anne Persin qui a une très belle pruve, qui arrive à mettre en place des situations cocasses.
C'est le cognac, ça.
C'est le cognac. D'écrire des personnages autant couleurs et une suite d'événements inattendus. On ne sait pas où cette histoire va nous mener. Mais l'auteur arrive toujours à nous surprendre par de nouvelles situations cocasses. En plus, je te l'ai dit tout à l'heure, Héloïse, parce que c'est pas vraiment le genre de livre que moi j'affectionne, le genre d'histoire. Et au début du livre, on se dit bon, ben on va essayer de poursuivre où elle veut arriver. Sur le moment, c'est pas très drôle, et après, en revenant sur les événements, on se dit ouais, quand même, c'est assez étonnant les situations qu'elle arrive à mettre en place, et on se prend dans le jeu, et vraiment, c'est un
et
livre.
Et ça t'a bien plu, ouais.
Ça m'a vraiment plu, ouais. Je donnerais un 10 sur 10 à ce livre de 200 pages au Rouergue.
Et du coup, enfin, j'aimerais revenir sur le titre parce que c'est marrant, Sous la vague. Moi, j'aurais pu dire qu'il était sur la vague, en fait, Bertrand qui flottait sur ces événements. Et là, Sous la vague, ça m'évoque un peu qui se fait noyer ou qui.
Inspiré par les événements. Il est dans le rouleau.
Oui, il est dans le rouleau. Et après, c'est par rapport aussi à Fukushima qui était sous la vague. Le roman départ de ce. Voilà, oui, c'est un peu l'effet papillon aussi. Voilà, il se passe quelque chose à l'autre bout du monde et ça impacte sur la vie de plein de personnes. C'est Sous la vague. Par ailleurs, elle a écrit Les Singuliers, un roman épistolaire, qui vient de sortir en format poche. Voilà. C'est sur l'effervescence artistique de la fin du 19e siècle avec Gauguin, Van Gogh, etc. Voilà, à lire.
Ouais. Très bien.
Je le conseille. On parle d'été dans notre chanson, Héloïse.
Oui, parce qu'il fait beau en ce moment, bah c'est pas fini là.
Ouais. Donc, ce beau soleil actuellement qui inonde le studio.
C'est ça.
Hein, un groupe français qui s'appelle Herman Dune, Herman Dune.
Dune.
This Summer.
This summer's riding for a fall. Recess is over, I heard the call. Riding for a fall.
you think they're right and you are going insane. If you think that they are right and you are going insane, it's just the lithium fucking with your brain. If you think they're right and you are going insane, this summer's right for a fall. Recess is over, I heard the call. I still wanna write it on the wall. This summer's writing for a fall. Half a bottle, let me see the rest of it. I've only had half a bottle, let me see the rest of it. I'm not drinking only for the taste of it. I've only had half a bottle, now let me see the rest of it. This summer's riding for a fall. Recess is over, I heard the call. I still wanna write it on the wall.
Voilà pour cette chanson. Avant de donner la parole à Valérie, Valérie nous expliquait pendant la pause la défense des marmottes. Alors, chers auditeurs et auditrices, pour se défendre, les marmottes urinent sur leurs prédateurs.
J'ai jamais dit ça.
Si, si,
j'ai dit que c'était dans le livre que
après,
j'avais lu.
Après, je suis pas sûre que ça soit vrai. Hein.
Non, mais c'est pas vrai.
Non, mais il faudrait se renseigner, tu vois, ça pourrait être possible.
S'il y a des gens, quand ils ont peur, ils se font pipi dessus. Est-ce que la marmotte, elle a pas eu peur et c'est pour ça qu'elle a...
Mais comme les lamas dans Tintin, ils crachent, voilà. Mais ils font ça en vrai.
Mais c'est donc je ne sais pas, non.
Je vais vérifier.
Je vous racontais mon livre. Je n'étais pas en train de faire un cours de. De biologie animale.
Il faudrait lancer un coup de fil à la LEP.
Ouais.
Ouais.
Je suis pas sûre qu'il soit pro à marmotte.
Bon, il doit bien savoir quelques trucs. Ouais.
Non, mais je vais chercher pendant que tu présentes un nouveau livre, Valérie.
Tu devais pas me faire la bio de l'auteur pendant que je présente.
Oui, mais il y a des choses plus importantes.
Okay. Secondaires, ouais. Bien, mais puisque c'est ça, je vais vous parler de mon coup de cœur à moi de la rentrée littéraire. Un livre superbe qui s'appelle Le Garçon, c'est le titre, et c'est de Marcus Malt. Donc, je comptais sur Ludo pour me faire la bio de Marcus Malt.
Tu l'auras dans quelques instants, une fois que j'aurai trouvé les moyens de défense des marmottes.
D'accord. Mais donc, je vais vous parler que du livre. Donc, le livre, c'est un...
C'est un gros livre.
Un très gros livre, voilà, qui m'a occupé quelques soirées aux éditions Zulma. Un livre qui est tombé à pic, puisque je l'ai lu pour la petite histoire, parce que le contexte s'y prêtait. J'étais dans le Tarn à Lacône sur les traces de l'enfant sauvage.
Je peux faire une dédicace.
Bien sûr, tu peux.
Antoine, mon enfant sauvage, il comprendra.
Voilà. Donc là, on était sur les traces de Victor.
Connais-tu le principal prédateur des marmottes, Valérie?
Soit c'est un rapace, soit c'est l'humain.
Le serpent.
Oui, hors l'humain. Hein. C'est l'aigle.
Ouais, c'est ça.
Et le renard et le chien errant sont également friands de marmottes.
Mais on voudrait savoir comment ils se défendent.
Alors, justement, j'y arrive. Les outils de défense dont dispose la marmotte pour échapper à ses prédateurs sont avant tout sa vue, qui, si elle n'est pas excellente, a au moins l'extrême avantage de couvrir un champ à 300 degrés.
Oui, mais là, la marmotte était enfermée dans une maison, dans mon livre.
Oui, mais j'y arrive. Il est donc très difficile de la surprendre. Son odorat, de même que son ouïe, sont très performants et complètent ses armes. Sinon, à la moindre d'alerte...
Elle pisse. Elle se cache.
La marmotte siffle à plusieurs reprises.
Ça, on le sait aussi.
Je vais chercher le sifflement de la marmotte. Ça fait un peu comme ça, c'est un long sifflet.
Non, non, en fait, tu veux pas en train de parler de mon livre préféré, quoi.
Si, si, je veux, mais voilà, je tenais quand même à apporter.
Mais c'était dans le livre, important. C'est pas moi qui.
Ce n'est pas grave, vas-y, continue.
Ce n'est pas grave.
Moi, c'est Victor de l'Aveyron. Alors.
Donc là, non, c'est... moi, j'étais sur les traces de Victor, l'enfant sauvage dans le Tarn, frontière avec l'Aveyron. Et j'ai ouvert ce livre à ce moment-là et ça ne pouvait pas mieux tomber puisque l'histoire donc du garçon se passe début des années 1900. Et on a affaire à un garçon qui vit seul avec une femme qu'on suppose être sa mère puisqu'on n'a jamais vraiment cette indication. Et dès le départ du livre, il la porte sur son dos, elle est mal en point et elle lui dit « la mère ». Et donc, il comprend qu'elle veut voir la mer. Donc, on suppose qu'ils sont dans le sud de la France, près de la mer. Il l'amène vers la mer et quand il la porte sur son dos et quand ils arrivent, ben la femme est morte. Oh. Donc, il le...
Mais c'était un livre pour Pauline, ça.
Pour Pauline. Oui, mais ça, c'est les 20 premières pages. Après, ça va aller beaucoup mieux. Ah. Il y en a 500. Et donc, de là, donc, il se débarrasse du corps comme il a vu faire, en fait, cette personne avec les animaux. Sachant que ce garçon vit isolé depuis qu'il est né, il n'a jamais vu d'autre être humain que cette femme. Cette femme qui parfois ne lui parlait pas, n'utilisait pas sa voix et disparaissait régulièrement et revenait avec une odeur chargée de musc, comme disait l'auteur. Donc c'est un garçon qui a grandi seul. On le suppose là d'être déjà adolescent puisqu'il est capable de porter une femme sur son dos sur un long trajet. Et il se retrouve complètement isolé à essayer de se chercher, à essayer de survivre. Et puis il décide d'aller un peu plus loin que le territoire qu'il connaît. Et il part. Et là, c'est le moment du livre que j'ai préféré.
Il rencontre une marmotte.
Sa rencontre
qui croit, qu'il va l'attaquer.
Tu vas vexer Valérie.
Son coup de cœur.
Pas sur mes coups de cœur, Ludo.
Oui,
sur Minard, si tu veux, mais pas sur Marcus Malt.
D'accord.
Voilà. Non, et donc, ça va être tout son parcours. Il va se dire, bon, autant survivre dans la nature quand c'est décrit. Ça semble simple pour lui, puisqu'il sait, faire. Il vit en symbiose avec la nature depuis qu'il est né. Donc, ça, c'est pas compliqué, mais c'est beau à lire. Et c'est la rencontre avec l'être humain, en fait. Et il va arriver dans un tout petit village et il va observer de loin, en fait, ses congénères, puisqu'il connaissait pas l'être humain à part sa mère. Et une fois, un colporteur qui était passé chez eux, mais des années auparavant. Donc, il ignorait même l'existence de l'autre. Et donc, il va commencer à les observer à longueur de journée et puis à les imiter, à faire du mimétisme pour essayer de comprendre pourquoi. À telle heure de la journée, ils se touchent tous le front, le nombril, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et il ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on ne lui a jamais parlé. Oui, c'est le signe de la croix.
Je n'y étais
pas moi non plus.
Merci, Louise.
Merci, Louise. Et c'est toute cette rencontre, et ça, c'est très, très bien décrit. Et c'est incroyable, parce que nous, on sait, depuis petit, on est habitué à voir d'autres humains, mais... Il faut s'imaginer que lui n'a jamais vu d'être humain. Donc, c'est grandiose tout ce qu'il a à apprendre, tout ce qu'il découvre. Et c'était trop court. Le livre était trop court parce qu'il aurait pu le décrire, je pense, sur 3000 pages, cette rencontre. Donc, ça, c'est la première partie. C'est la rencontre avec l'être humain. Donc, à force, il va rentrer dans ce village. Bon, évidemment, c'est un enfant qui a vécu dans la nature, qui sait se débrouiller, donc qui est résistant à tout. Une force de la nature, donc qui s'est exploité par les quatre villageois qu'il y a dans ce bourg. Ça met bien aussi en valeur, et c'est tout à fait dans l'actualité, la peur de l'autre qui arrive de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, qui parle pas, qui a pas la même couleur de peau, non pas parce qu'il a pas les mêmes origines, mais parce que lui, il a cramé au soleil, hein, clairement. Mais la peur, les croyances, enfin, c'est le diable qui arrive, les récoltes vont être mauvaises, enfin, la méchanceté que peuvent avoir les gens, alors qu'en fait, ils ont affaire à un pauvre orphelin, un mutique, enfin, la dureté des gens, mais aussi la beauté d'autres personnes qui l'accueillent et qui, certains qui vont essayer de lui apprendre des choses, d'autres qui vont juste le prendre tel qu'il est. Donc ça, c'est vraiment la partie rencontre de l'autre. Après, on enchaîne sur il va fuir pour des événements ce village. Il va rencontrer un être un peu singulier. Donc Barbek, c'est l'ogre des Carpates. C'est un ancien artiste de cirque qui vit avec son gros cheval, son hongre et sa roulotte. Et qui fait des combats de lutte dans les villages pour gagner sa croûte. Et il va partir avec lui. Et par contre, Barbek, c'est l'inverse de tous les gens qu'il a jamais connus. C'est un moulin à paroles. qui raconte sa vie, qui lui raconte les États-Unis, qui lui raconte plein de choses. Donc, il découvre, il apprend jusqu'à ce que Barbeck quitte sa vie et qu'il ait un accident qui se fasse renverser par une femme. Et cette femme va le recueillir pour le soigner. C'est une jeune qui a à peu près son âge. Et là, ben, ça va être la découverte des sentiments. Ça peut paraître cucu, décrit comme ça.
C'est un peu mais cucu, c'est... quand même.
Ouais, décrit comme ça. Non, mais c'est magique. Il y a des descriptions... ben, lui, il ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est... les sentiments sont bruts. Ils sont neufs. Ils sont entiers. L'auteur décrit des lieux où c'est qu'ils vont se retrouver tous les deux. Elle lui lit des livres à longueur de journée. Comme il ne parle pas, elle se dit peut-être qu'il est étranger. Peut-être qu'il ne comprend pas. Peut-être c'est le choc qu'il a eu. Et ils décrivent leur journée à se découvrir, à découvrir. Elle, c'était aussi à découvrir l'homme. Enfin, elle connaissait lui-même et à découvrir l'homme en tant que personne. Et il se passe des choses absolument fabuleuses entre eux. Donc, il y a cette partie-là qui est magique. Enfin, des scènes sous un grand sol pleureur au bord d'une rivière. Mais, waouh! Wow. Mais très belle, très belle, très.
Il sait parler aux femmes, cet auteur. Il a eu le grand prix des lectrices de incroyable. Elle en 2008.
Et en même temps, là, tu le vends bien. Ah, mais ça a l'air fantastique.
C'est incroyable. Et après, il y a la troisième scène le troisième volet qui va être là beaucoup plus dur. C'est-à-dire, comme il est recueilli dans cette famille, on arrive sur la période 14-18, il va être mobilisé pour aller sur le front.
Il parle toujours pas. Enfin, il n'a jamais appris à parler.
Il comprend très très bien, mais il a gardé son instinct et voilà. Et là, il va vivre la guerre avec tout ça.
À la fin du livre, il sait dire obus.
Non, il parle toujours pas.
Ça a l'air de finir
bien.
Ah, bien.
Non, ça finit pas. Moi, j'en veux encore. Ouais. Mais c'est absolument magique. Ça aurait mérité, je sais pas, oui, 2000 pages de plus. Hein. Enfin, moi, je suis restée sur ma faim. Pourtant, il est long et il est lent à lire en fait, parce que c'est très bien décrit. C'est wow.
Et t'as un petit passage à nous lire ou tu saurais pas choisir?
Non, j'arriverai pas à choisir parce que c'est.
Allez, pendant que tu cherches, je vais parler de cet auteur. Non, tu m'as dit, il s'appelait Marc Martignani.
Marcus Malta.
Non, de son vrai nom, Marc Martignani, qui est né en 67 en Seine-et-Marne, qui a écrit plusieurs romans policiers, littérature d'enfance, de jeunesse, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012. Voilà, je ne sais pas pourquoi il précise ça. Voilà, bac littéraire, etc., etc. Œuvre, non, voilà. C'est déjà bien, hein, Pauline?
Ouais. C'est très bien.
Ok, je t'ai laissé le temps.
Après, je comprends que ça soit difficile aussi.
Lié au hasard, pourquoi?
Au hasard, Balthazar. Voilà. Donc là, c'est quand il est, avec sa. Ah, mais non, c'est quand il lit un livre, ça, c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle.
Bon,
mais
allez, au hasard.
Pour qu'on voit le. Voilà, vas-y.
Stop. Ok. Elle rouvre les yeux, le soleil couchant mordore ses prunelles. Café, miel, sucre roux. Ils se font face et dans le peu d'espace qui les sépare, volettent quelques paillettes d'or comme des comètes au sein d'un univers au microscope. C'était ma punition, mon châtiment. Et pourquoi avais-je mérité ça? À cause de ma mère? Ma mère était un rêve adorable, si j'en crois mon père. Et si je le crois? C'était justement là mon malheur. Car moi, je ne l'adorais pas. Moi, j'adorais mon père. Et j'étais jalouse. Je souffrais de l'adoration qu'il lui voulait vouer à elle. Voilà, la petite fille qui ne voulait pas partager. Donc ça, c'était Emma, donc l'amoureuse de notre...
J'adore parce que t'as des petits relents d'accent aveyronnais des fois. C'est mon père, hein, t'as vu, hein?
Quand j'ai dit mon père. Hein.
Ouais. Oui.
Ouais. Mais c'est très bon.
Mais c'est très bon. Et j'ai ouvert au hasard Balthazar. Hein. Enfin, c'est vraiment... et tout le livre, il est poignant. Moi, le seul regret que j'ai, c'est sur le... à la limite, il aurait pu faire une trilogie de la vie du garçon.
Mais qu'est-ce qu'on sait qu'il va pas continuer?
Non, mais c'est sur la partie, la partie sauvage en fait, où j'aurais aimé qu'il aille encore plus loin dans.
C'est des fois ils font des trilogies en revenant sur l'histoire antérieure.
Oui, comme à bord du Gogol, enfin des choses comme ça. Mais vraiment, je sais plus de qui c'est.
Un livre chez Zulma aussi.
Oui, de chez Zulma. Ouais.
D'accord.
Je crois que je vais arrêter de lire autre chose que chez Zulma. Non, c'est vraiment un livre somptueux. C'est beau, ça mêle un peu tous les sentiments. C'est vraiment, moi, mon gros, gros coup de cœur de la rentrée. Voilà.
En lice pour le prix Fémina, peut-être. Non, je sais pas.
J'en sais rien.
On sait
pas. Oh, il est en liste pour plusieurs prix. Ouais.
J'ai pas lu une seule critique. J'ai pas voulu. Autant sur Céline Minard dont je parlais tout à l'heure, j'ai été voir les autres critiques pour savoir qu'est-ce que les autres en pensaient. Autant là, j'ai même pas été voir tellement je trouvais ça sublime.
Ok, allez, on se dépêche. Il reste que 10 minutes. On a encore plusieurs livres à présenter. Et Louise, elle fait ses petits yeux pour que ça soit elle qui
parle. Ah non,
pas
du tout. Non, non, mais du coup, il nous reste deux livres finalement. Il y a toi, Valérie.
Et Pauline, ah
non,
toi
aussi. Hey,
Pauline, oui. C'est pas grave.
Si,
ah non,
si.
Mais
vous
vas-y,
avez des
vas-y.
Coups de cœur.
Vas-y, ben moi aussi, mais toi aussi, non ?
Ah bah ouais, moi ça.
Bon, bah voilà, vas-y.
Allez, Pauline, c'est parti.
Alors, très vite fait. Alors, par Tonino Benacquista, romanesque. Alors, moi, jamais entendu parler, mais apparemment, c'est quelque chose que j'ai complètement loupé. C'est un auteur hyper prolifique. Donc voilà. On va pas s'étendre sur l'auteur, on va plutôt parler du bouquin.
Oui.
On rencontre un couple de Français qui est en cavale aux États-Unis. On sait pas vraiment pourquoi, pas vraiment depuis quand. Et ils sont partout sur tous les écrans. Ils peuvent absolument pas se cacher. Et ils ont une vraie expérience de la cavale, un instinct de survie. C'est vraiment, on sent les aventuriers, quoi. Alors on sait pas du tout ce qu'ils ont fait, mais par contre, tout de suite, très très vite, on les trouve plutôt sympa. Voilà. Ça, c'est vraiment le sentiment du début. On les aime bien. Et alors là, il leur vient une idée, mais absolument incompréhensible. Ils vont se rendre au Chicago Theater pour voir une pièce.
Théâtre de Chicago.
Voilà. un grand classique, Marié malgré eux, qui est une pièce anglaise qui compte une légende qui serait inspirée de faits réels. Truc incroyable. Bref, je m'arrête là pour leur histoire à eux. Et je vais vous parler un peu de la pièce, parce que finalement, on nous détaille après, ensuite, toute la pièce. Donc c'est au Moyen-Âge, un chasseur, un braconnier, une glaneuse, qui tombent tout simplement amoureux. Ils choisissent de vivre vraiment comme ils le souhaitent. Ils vivent leur amour. Alors c'est pas du tout dans une idée de rébellion, mais ils veulent juste vivre ensemble, heureux, sans soumettre à ce que dicte la communauté. Ils veulent vraiment être sereins. Donc c'est vraiment un amour pur, un amour vrai, qui se pose aucune question, mais c'est pas niais du tout, comme on pourrait croire. C'est vraiment très simple, très joli. Évidemment, ça va créer des jalousies, ça va attiser la haine. En plus, on est dans une période au Moyen-Âge où tout ce qui est pas conforme à l'usage,
on le brûle.
clairement, on le punit de mort. Donc on a ces deux couples. Qui sont condamnés par le monde entier et qui vont devoir affronter des périls, des aventures incroyables. Ils vont traverser les continents, ils vont traverser les siècles et voilà, tout ça pour vivre leur passion. Donc la légende, alors c'est étonnant parce que donc la légende, j'ai été vérifiée, n'existe pas, la pièce non plus, mais franchement on y croit. On se dirait ah tiens, ce serait pas une pièce d'un grand auteur que je connais pas, que j'ai envie d'aller voir. Tout semble vraiment vrai. Et franchement, je pense pas avoir lu un livre qui portait aussi bien son titre. Je vous rappelle, c'est romanesque et là pour le coup, c'est le vrai roman d'aventure avec vraiment des épreuves, c'est haletant, c'est drôle, il y a des moments touchants, enfin c'est vraiment c'est hyper romanesque et c'est ça se lit très vite, c'est simple et c'est à lire parce que c'est vraiment un bon moment et on va vraiment vivre ce livre, vivre leur vie avec une écriture chouette et c'est vraiment si vous aimez les légendes arthuriennes, si vous aimez les mille et une nuits, les aventures quoi, lancez-vous, ça va beaucoup vous plaire. Allez-y.
Et du coup, ça alterne entre donc le couple récent et la pièce qu'ils sont en train de voir.
Voilà, exactement, c'est ça.
Ouais.
Ça a l'air chouette. Ouais,
ouais, très sympa. T'as
raison, il est extrêmement prolifique, cet auteur. Alors, j'ai trouvé le cri de la marmotte.
Je n'ai pas de casque, je n'entends pas, Ludovic.
Écoute, tant pis pour toi, parce que c'est vachement bien. Écoute, vous écoutez ?
Non, mais j'entends pas.
Non, mais toi, t'entends pas. Attends, elle se calme.
Sinon, on peut aussi parler de littérature.
On dirait un oiseau.
Mais oui, quand on est dans la montagne, qu'on entend ça, on se dit, tiens,
la marmotte qui fuit. Elle fait son petit pipi, puis elle s'en va.
C'est ça. Voilà pour la marmotte. Héloïse, allez, vas-y.
On va rappeler l'éditeur, peut-être, Tonino Benacquista, romanesque chez Gallimard.
Chez Gallimard, ouais.
Tout simplement. Même s'ils sont connus, il faut le dire. il me reste combien de temps ? 7 minutes ?
Allez, on peut...
Non, mais ça va, j'aurais fini avant.
Oui, mais elle a un livre aussi, Valérie.
Oui,
on va te laisser la parole. On déborde.
On déborde.
Moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Un dangereux plaisir » de François Valéjeau aux éditions Viviane Ami. Donc, le personnage principal, c'est Élie Elian. Donc, il a une enfance assez, pas difficile, mais un peu morne. Il est dans une famille de la bourgeoisie désargentée. Ils ont plus d'argent, mais ils veulent pas travailler quand même. Ils vivent sur le peu qu'il leur reste. Et du coup, la nourriture que lui offrent ses parents, il la rejette totalement quand il est petit. Vraiment, c'est quelque chose qu'il trouve bourratif. Il y prend aucun plaisir. Du coup, il mange plus du tout. Donc c'est un enfant voilà qui n'aime pas manger. Et un jour, en fait, il y a un restaurant qui ouvre dans son quartier. Et il est fasciné en fait par les odeurs qui en sortent, par les bruits qu'il entend, par ce qu'il entrevoit, les blouses blanches, etc. Alors, il passe des heures et des heures à observer cette cuisine sans pour autant avoir envie de manger non plus. Un jour, il est puni. Et il est mis dehors avec son assiette et tant qu'il n'a pas fini, il ne rentrera pas dans la maison. Et une voisine assez gentille arrive, lui donne un bout de tarte aux fraises et s'en va. Et voilà. Et donc là, c'est la révélation, la tarte aux fraises magnifique. Il n'a jamais rien goûté d'aussi onctueux, d'aussi somptueux. Il y a plein de choses, ça lui évoque plein de choses. Et là, du coup, il décide de devenir cuisinier. Il faut savoir que cet épisode de la tarte aux fraises, l'auteur l'a vécu réellement quand il était petit. Voilà.
T'as vécu à peu près pareil, Valérie, avec l'absinthe. Un jour où t'étais
c'est pour ça
dehors.
Que j'y vois pas très bien. Ouais.
Et qu'elle a décidé de fabriquer de l'alcool.
De devenir alcoolique.
Et en même temps, je suis née pas loin de Toulouse-Lautrec. Donc,
c'est pour ça.
Donc voilà, donc il décide de devenir cuisinier. Évidemment, ses parents, déjà le fait qu'il veuille travailler, ils comprennent pas. Et encore moins être cuisinier. Donc ils le laissent partir de chez eux. Il lui donne aucune source de revenus ni rien. Et donc voilà, Élie Elian se retrouve dans la rue. À dormir dans la rue, c'est assez dur. Il commence à copiner avec les oiseaux, il prépare avec les bouts de pain et les poubelles qu'il trouve des repas pour les corbeaux qui sont ses seuls compagnons. Il essaye de trouver des petits jobs dans des restaurants. Il est à la plonge, mais du coup, il fait très mal son travail parce que il est toujours l'œil rivé sur les pièces de viande, sur les gestes des autres cuisiniers. Du coup, il fait très mal son travail, il casse tout plein de choses. Enfin voilà, il est vraiment pas très compétent. Et donc, un jour, il a tellement faim, il décide d'aller dans un restaurant, de manger à sa faim et de partir sans payer. Et donc, c'est le restaurant de la veuve Maudor, et donc qui a compris évidemment le jeu d'Élie. Et elle le prend en affection et elle l'engage en fait pour qu'il paye sa dette. Elle l'engage. À la plonge, justement, et il va s'installer, il va s'immiscer dans la maison petit à petit, il va commencer à proposer des choses, il va avoir une relation très sensuelle avec la veuve Maudor. Et du coup, voilà, il découvre tout plein de choses, il se laisse aller librement, en fait, dans cette cuisine. Et voilà, et c'est là que commence sa vie de cuisinier, et après, il va faire d'autres maisons où il va plus s'affirmer. C'est un parcours assez atypique et intéressant. Enfin, on le suit avec plaisir, même si le personnage n'est pas du tout attachant. Il est assez neutre, il est toujours dans des situations un peu gênantes. Moi, il m'a mis un peu mal à l'aise, mais je pense que voilà, c'est fait exprès. C'est un personnage assez atypique et antipathique, on va dire. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir à lire. L'écriture est très belle, c'est très saccadé, c'est très nerveux. Voilà, c'est quelque chose qu'on suit avec grand plaisir, ouais. Voilà.
C'est un gros livre. Hein.
Oh non,
2800 pages.
Il fait 300 pages.
300 pages, non,
300
ça va.
Pages, ça va.
Je voyais plus gros.
Ouais.
Ok, tu nous rappelles.
Un dangereux plaisir de François Valéjeau chez Viviane Ami.
Ok. Allez, on finit en beauté.
Ah, on va finir en beauté avec La nuit des Juifs vivants. Vous en voulez davantage?
J'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps.
Non, La nuit des morts vivants plutôt.
Non,
c'est vrai
de ce livre.
Ouais. Ben, c'est assez improbable. Pour tout vous dire, je l'avais emprunté donc, à Héloïse pour la rentrée littéraire. Et puis j'ai lu le quatrième de couverture. J'avais dit que je ne le ferais plus, mais je l'ai lu. Et j'ai dit non, mais je ne peux pas lire ça, ce n'est pas possible. Quatrième de couverture, ben, je vais vous lire.
Super.
Et qu'est-ce que vous faites de tous ces prépuces? Je demande méfiant. T'inquiète pas, on gâche rien, mange ta soupe. Vomir, ce n'est pas beau, donc je me retiens. Et lui, il rigole. C'était peut-être une plaisanterie. Où est-ce qu'on trouve des calamars dans les égouts? Je me demande en extirpant avec la langue des restes de fibres coincées entre mes dents. J'essaie de sourire, mais mon visage se tord et je sens la salive s'accumuler.
Wow. Donc voilà. Oui, en fait, titre, le quatrième de couverture, j'ai dit non, ben, finalement, je ne le lis pas. Bon, c'était un exemplaire que tu as reçu de la maison là-bas. Je savais qu'elle n'allait pas le vendre. Enfin, cet exemplaire-là. Et me voilà en train de partir à la plage. Et je me suis dit, mince, j'ai rien à lire que je ne puisse pas maltraiter. J'ai dit, ben, je vais prendre celui-là, puisque bon, elle ne va pas le vendre. C'est une édition qui lui a été offerte. Il faut laisser sa chance à Igor Ostrachowski. Eh bien, j'ai bien fait. Ne vous fiez pas au titre. Sous des apparences... Ah, j'avais préparé un papier. Je
allez, vas-y.
Non, je ne vais pas lire. Allez, je vais l'improviser. Si. Non. En fait, c'est un livre sous des apparences. Donc, c'est une parodie de La nuit des morts vivants. Mais en fait, La nuit des juifs vivants, ça se passe à Varsovie. Et il faut savoir que bon, Varsovie avait été détruite complètement. C'était un cimetière à ciel ouvert. Et là, en fait, c'est tous les, enfin, de nombreux juifs qui ont été jetés là, dans notamment un quartier de Varsovie, qui décident de ne plus rester terrés sous terre et de refaire surface et d'aller plus ou moins se venger.
C'est pendant la guerre
Ah non, c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Hein, c'est début 2010. Donc, c'est un plombier lambda qui habite avec sa petite copine anorexique qui s'appelle Lagigue, qui va dans sa cave un jour découvrir une trappe, l'ouvrir et faire la connaissance de ces zombies juifs. Alors, première lecture, si on n'allume pas le cerveau, on se dit, non, mais alors là, qu'est-ce qu'il a pris comme drogue? Parce que c'est pour avoir l'idée d'écrire ça, je pense qu'il faut prendre des choses assez puissantes. C'est ce que je me disais au départ. Puis après, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quand même une personne qui a de la culture. Il a été conseiller du premier ministre polonais Donald Tusk. Pas Trump, non, Tusk. C'est son deuxième roman, certes. Le premier qui est traduit, je dis, c'est pas possible. Enfin, et effectivement, alors là, il a la rencontre avec certains juifs. Ceux qui sont là, c'est ceux qui sont pas passés sur l'autre dans la vie, dans l'au-delà, et qui ont des comptes à régler. Et là, voilà, là, ça part vraiment. Bon, l'histoire est farfelue. Hein, ils remontent sur Terre. Il y a les juifs ados qui découvrent le grand centre commercial Arcadia, qui est le paradis de l'argent, de la mode, tout ça. Ils veulent tous des iPods, des machins. Enfin, c'est farfelu, mais d'un autre côté, ça met bien en parallèle aussi que Varsovie n'a pas fini de régler ses comptes avec son passé. Ça montre aussi que certains ont oublié ce qui s'était passé. Il y a un parallèle de ces juifs qui reviennent en zombie. Il y a un gros groupe d'extrême droite qui se recrée et qui a volé donc une espèce de bague en argent qui, quand il est en possession d'une personne, la personne se transforme en diable. Enfin, c'est hyper farfelu, mais ça fait énormément réfléchir. Enfin, c'est alors quelqu'un qui n'a pas du tout connaissance de ce qui s'est passé en 39-45 va le lire au premier degré, va dire ben ouais, c'est débile, c'est l'histoire de zombie la plus nulle que j'ai jamais lue. Ça fait pas peur, effectivement. Faut pas chercher une histoire de zombie dedans. Et par contre, ça va aller très vite comment est-ce qu'on peut très vite, en fait, cette société qu'on critique, qui est très je consomme, le rapide, l'avoir, il faut absolument que j'aie comme les autres, tout ça. Ça montre que même quelqu'un qui a vécu pendant 80 ans sous terre, finalement, en 15 minutes, il peut être transformé et vouloir avoir envie, avoir besoin d'eux. Et c'est là où c'est que le livre prend toute
cette noblesse. Et ces zombies, ils parlent, enfin, parce que des fois, les zombies ne parlent pas, mais
ils peuvent s'exprimer. Ils mangent, ouais. C'est
vrai qu'en général, ils ne parlent pas, les zombies.
Et en fait, si tu veux, le fil rouge, c'est un père de famille qui a refusé de rejoindre toute sa famille qui était partie, parce que sa fille était là, et elle refusait, elle aussi, de partir donc, vers l'au-delà. Et il fallait qu'elle sourie pour pouvoir être apaisée et partir. Et il a menacé notre plombier, notre héros des temps modernes, en disant, voilà ton objectif, tu te démerdes, tu la fais sourire. Et après, on te laisse tranquille, sinon on te tue, grosso modo. Donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est assez space, enfin, comme écriture, c'est barré. L'histoire, elle est complètement rocambolesque. Enfin,
c'est drôle.
Ouais, il y a des... Si, tu rigoles, mais d'un autre côté, ça t'interpelle aussi, parce que c'est quand même assez... t'es pas bien dans tes baskets, quoi. C'est quand même le ghetto qui ressort de sous terre. Donc,
Oui, qui suinte encore. On en parlait tout à l'heure, voilà, de ce qui suinte.
qui suinte le passé. Et tu sens que tout n'est pas fermé. Puis tu vois... Comme ça se passe en 2010, quand tu vois des groupuscules haineux, des gens qui vont faire des expéditions punitives ou autres, ça fait très réel, hein, ça fait très réel. Et puis eux, ils s'en foutent hein, que le juif, il soit, que ce soit un juif zombie ou un juif juif. Hein. Enfin, c'est donc c'est assez dérangeant, quoi. C'est voilà, c'est il faut pas s'en tenir juste au premier degré. Il faut aller un peu plus loin. Ça se lit bien, mais fallait trouver l'idée.
Voilà. Tu le conseilles ?
Ah oui, complètement, complètement. Et je regrette vraiment pas d'avoir voulu le lire, hein, parce que je l'avais dit à Héloïse. D'ailleurs, j'étais repassée à la librairie. J'ai dit, tu sais, j'étais pris la nuit des Juifs vivants. Je pense pas que je vais le lire. Ça me dérange, enfin, par rapport au passé, tout ça. Et en fait, non, faut pas du tout. Je pense qu'il a. Alors, soit c'était de la provoque, le quatrième de couverture, parce que c'est vraiment le moment. Enfin, il y a deux moments un peu trash, et c'est celui-là le plus trash. Mmh. Voilà. Honnêtement, faut. Voilà, faut y aller, faut
le
lire.
C'est une toute petite maison d'édition, encore une fois.
L'Antilope. Ouais. Et ça vaut le coup, hein, ça. On apprend des choses, c'est pas mal du tout.
Il y a un peu de Monoï sur la couverture, hein, par contre.
Ah oui, c'est le mix à bébé indice 50.
Ah, ok. Voilà. Super, bon, parfait. On a vu tous les livres, on n'a rien oublié.
Non. On Héloïse, est pas mal.
Non,
on est bon.
Ouais. Ok, on va complètement changer de thème dans deux semaines.
Oui, on va parler de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin, deux grandes figures du polar que j'adore.
On fait un contest, voir qui est le meilleur des
deux.
Ah
ben, moi, je sais déjà pour qui je vote. Hein.
Moi, j'ai eu que du Sherlock Holmes, donc je peux
c'est
pas...
Ouais.
Ah ben, un excellent livre que je vais présenter dans deux semaines.
Je vais te passer mon Arsène Lupin. C'est une BD manga d'Arsène Lupin.
Je n'ai pas le temps, j'ai des livres de science-fiction à lire.
C'est pendant un mois.
Ah oui, mais ils sont gros.
Ouais, c'est une BD manga.
Ils sont pas en film, en plus. Allez, super, merci les filles.
Allez, bon après-midi, bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.